Chapitre 10, 22 décembre, 30 minutes avant une mort certaine. J'avais pourtant juré que l'on ne m'y prendrait plus. Je garde en effet un souvenir mouillé et froid et humiliant qui plus est de mon expérience de l'année dernière. Pourtant, force est de constater qu'une fois encore, je suis emmitouflée dans une combinaison de ski, assise dans une luge en haut d'une pente et sur le point de prendre le départ d'une course. Quel mot n'était pas compréhensible dans la phrase « plus jamais de luge » ? Cette année, il y a malgré tout une différence, et de taille. La course de luge ne se fera pas en solo, mais en tandem. Ce qui signifie qu'au cas où je m'encastrerais dans un mur de neige au détour d'un virage, je ne serai pas seule, j'entraînerai mon partenaire de course avec moi. Maigre consolation. Parmi les nombreux équipages au départ, incroyable comme les gens peuvent être inconscients du danger, on retrouve Hélène et Étienne, Maddy et Ludo, ou encore Benjamin et Christelle. Cette course de luge étant une tradition de Noël à Santal et de Sapin, naturellement, les juges du concours y ont été inscrits d'office. Il serait dommage qu'ils repartent sans avoir apprécié les joies d'une bonne descente. Warren s'est empressé de proposer à Frida de faire équipe avec lui. Yevgeny s'est rabattu sur une Valérie visiblement ravie d'avoir un partenaire au physique homme des glaces pour le moins agréable. Après le refus d'Anastasie de participer, soyons lucides, la moindre chute sur la neige serait pour elle synonyme de fracture du radius, cubitus et de n'importe quel os en us, Donovan a demandé à Lise de faire équipe avec lui. Si elle a d'abord eu l'air réticent, elle a finalement accepté la proposition. Et au moment du départ, un grand sourire éclairait son visage rosi par le froid. Quant à moi, naturellement, je suis avec David, bien décidé à m'abriter derrière lui, à fermer les yeux tout au long de la descente et à prier un dieu quelconque. « Place-toi devant, entre mes jambes », m'indique-t-il. « Que je me place devant, pour voir la mort en face. Compte là-dessus et bois du chocolat chaud. » Hors de question. À ta guise. Mais sache que celui qui est derrière est celui qui gère les freins et la trajectoire de la luge. Va pour la mort en face. M'inclinai-je sans autre forme de protestation en prenant place à l'avant de notre bolide de plastique rouge. Les trajectoires et moi, on n'est pas copines. Est-ce que tu vas faire comme dans les courses de bobsleigh, courir à côté de la luge puis sauter à bord en pleine descente? M'inquiétais-je soudain. Dans la mesure où notre engin de course est en plastique et fait sans doute à peine plus de 30 cm de haut, je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. On va se contenter de pousser avec nos bras. Qu'en dis-tu, ma chérie? J'indique que j'aurais peut-être dû réfléchir hier avant d'engloutir tous ces macarons à la pistache. Je vire cramoisi en nous imaginant David et moi coincés en haut de la pente à cause de mon postérieur bien trop lourd, incapable de mettre en mouvement notre luge au moment du top départ. Je garde en effet un souvenir cuisant d'une situation similaire alors que j'étais assise cette fois-là sur une bouée en haut d'un toboggan lors d'un après-midi à la piscine avec Joséphine et Estelle. Si bien que, lorsque le coup de sifflet retentit, je donne tout ce que j'ai. Pas question que l'on me reserve pendant des années l'histoire d'une luge bloquée pour cause de fesses trop portées sur le sucre et le gras. La caméra de vidéosurveillance, c'est déjà largement suffisant. Heureusement, la puissance de David fait merveille et nous nous élançons en même temps que tout le monde. Alléluia! Et quand je dis que nous nous élançons, le mot est faible. Nous nous propulsons dans la pente, tellement vite que mes jambes manquent de basculer par-dessus ma tête sous l'effet de la surprise. Nous sommes du coup rapidement en tête de la course, en compagnie des duos Donovan-Lise et Yevgeny-Valérie. Connaissant les deux frères et leur rivalité, certes aujourd'hui atténuée mais néanmoins toujours présente, je devine que je vais pouvoir classer les minutes à venir niveau 9 sur l'échelle de la peur de mourir selon Pauline. David négocie les trajectoires comme s'il jouait sa vie. La luge craque dangereusement. « J'ai envie de vomir !» me risquais-je à indiquer. « Raval, ça nous ralentirait !» Charmant. Nous sommes luge à luge avec Donovan et Lise. J'entends cette dernière qui encourage Donovan, cherchant à le galvaniser si tant est qu'il en ait encore besoin. Mais avis que la perspective de coiffer son frère au poteau est déjà nettement suffisante. La ligne d'arrivée n'est plus très loin. J'ai soudain une envie très pressante, signe que l'on va bientôt atteindre le niveau 10 sur l'échelle de la peur de mourir. J'ignore pourquoi, mais l'angoisse a toujours eu un effet excessivement diurétique sur moi. Certaines pleurent, Moi, je fais pipi. C'est comme ça. Pour tenter de gagner du temps, je serre les jambes et me dandine juste un tout petit peu. Sauf que sur une luge en plastique lancée à pleine vitesse, mon petit et innocent dandinement se transforme à mon grand désarroi en un mouvement gigantesque. Le dernier virage nous est par conséquent fatal. David ne parvient pas à maintenir la trajectoire. Nous sortons du parcours et, pendant quelques secondes qui me paraissent une éternité, glissons sur la tranche de la luge avant de nous retourner complètement et de nous immobiliser dans un geyser de neige l'un sur l'autre. Donovan et Liz franchissent donc la ligne d'arrivée en tête. Donovan freine et immobilise la luge après avoir effectué un élégant arc de cercle. Tous les deux se relèvent et poussent des hurlements de joie. Liz, sans réfléchir, se précipite dans les bras de Donovan. Ils l'enserrent bien trop longtemps, pour être honnête. Je jurerais même au gonflement de ses narines qu'il lui respire les cheveux. C'est le moment que choisit ma vessie pour me faire faux bond et emporter avec elle ma dignité. J'avais dit que je ne voulais plus faire de luge, je l'avais dit. Pauline, il n'y aurait pas comme un souci ? Demande David. Ben si, je voulais changer d'anecdote humiliante à mon sujet, j'en avais marre de l'histoire du parking. Et contre toute attente, je ne peux m'empêcher d'éclater de rire. Lorsque nous rejoignions tout le monde sur la ligne d'arrivée, après que j'ai fait promettre à David de taire cette humiliante histoire de vessie, moyennant la réalisation d'au moins deux de ses fantasmes sexuels, Donovan irradie. Tout le contraire de celui qui a la victoire modeste. Les années passent, mais le résultat est le même pour toi, ma chère belle-sœur. Tu ne parviens pas à franchir la ligne, raille-t-il. Ce n'est pas faute de t'avoir prévenu dès le début que tu misais sur le mauvais cheval. Alors que je sens David se crisper, Donovan éclate de rire et pour la première fois, me semble-t-il, c'est un rire sincère dénué de toute animosité envers son frère. Le bras qu'il a gardé autour de la taille de Liz est, bien entendu, sans aucun rapport avec la chose. « Où est Anastasie ?» demande David, comme s'il lisait dans mes pensées. Instantanément, Liz s'écarte de Donovan. « Elle doit être par là-bas avec Samantha. » indique Maddy en désignant un chalet en contrebas de la piste. Elle a accepté de nous la garder comme elle ne participait pas à la course. En effet, je distingue une femme assise sur les marches de la terrasse du chalet, accompagnée d'une enfant qui, si je ne me trompe pas, s'amuse à ramasser de la neige pour lui en mettre dans les bottes. La Grinchette dans toute sa splendeur. Allez, pour trinquer à notre victoire, je vous paie un verre de vin chaud, propose Donovan. « Vous êtes les bienvenus, bien entendu, messieurs les juges », précise-t-il à l'intention d'Yevgeny ainsi que de Frida et Warren, qui entre-temps nous ont rejoints. La belle Italienne a les cheveux recouverts de neige et au regard noir qu'elle jette à son homologue américain, je devine que la descente ne s'est pas non plus faite de leur côté sans quelques retournements de luge. « Spasibo », répond Yevgeny. « Moi, très plaisir goûter vin chaud. » Santa, les deux sapins, a élaboré sa propre recette, précise aussitôt Valérie. C'est une autre de nos spécialités. Mais avis que ses yeux qui brillent ainsi que ses joues rosies n'ont aucun lien avec le froid ambiant, ou alors avec un certain froid russe. Quelle bonne idée, approuve Hélène. Je vais devoir vous abandonner en ce qui me concerne. J'ai rendez-vous d'ici un quart d'heure avec la Santa Chlorale pour notre dernière répétition avant la représentation de tout à l'heure. Non qu'ils aient réellement besoin de répéter vu leur talent, ajoutai-je précipitamment pour Warren, Yevgeny et Frida. Après tout, ils chantent chaque année. Depuis des années, bafouillai-je. Je raccompagne Pauline, indique David. Il joint le geste à la parole et m'entraîne en direction du centre-ville alors que les autres se dirigent vers le chalet. Je n'ai pas de répétition, murmurai-je de peur qu'ils puissent m'entendre. Je dois aller prendre une douche et me changer rapport à tu sais quoi. J'avais tout à fait compris. Il y a justement deux ou trois trucs que je pensais faire avec toi sous la douche rapport à tu sais quoi, me dit-il avec un clin d'œil suggestif. J'en connais un qui ne perd pas le nord. Il est presque 17h et la quasi-intégralité du village est réunie sur la place. Tous attendent l'inauguration des maisons en sucrerie pour l'heure encore recouverte de tissus pour ménager l'effet de surprise. Avant ce grand moment, il est prévu que la Santa Chlorale présente son répertoire. Je crois que je n'ai jamais été aussi nerveuse de ma vie. même si objectivement, en ce qui me concerne, cela va consister à prendre un air sérieux et à agiter les bras dans tous les sens, mais en rythme. Chaque membre de la chorale porte sur le dos une cape de velours vert à capuche, surprise de Maddy. Celle-ci nous a en effet rejoints dans la salle de musique il y a une heure à peine pour nous les déposer. Les robes des demoiselles d'honneur ne sont pas prêtes, mais elle a tenu à bricoler un costume pour la chorale. Je dois admettre que nous avons de l'allure ainsi vêtue. Une petite estrade en bois sur laquelle nous sommes installés a été dressée devant le sapin de Noël du village. Derrière nous, au premier rang, se trouvent les juges du concours, chacun tenant un bloc-notes. L'enjeu est de taille. Si j'ai bien compris, il y a au moins 4 critères du cahier des charges qui concernent la chorale de Noël. Je prends une grande inspiration et le spectacle commence. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. C'est beau, c'est harmonieux. Je balance mes bras comme je l'ai vu sur YouTube. On n'entend même pas la petite Amy fredonner « la 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 » faute d'être en capacité de chanter les paroles en anglais. Je me sens l'âme d'un Leonard Bernstein. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once more. Je marque la fin de la chanson par un geste du bras. Tout le monde s'arrête. Je suis incroyablement douée. Derrière nous, le public applaudit. Chacun se détend. Nous pouvons enchaîner. Pendant une bonne demi-heure, tous les standards y passent. Santa Claus is coming to town, Petit Papa Noël, Frosty the Snowman, Feliz Navidad, Mon beau sapin. Nous chantons même On the 12 Days of Christmas, au cours de laquelle c'est Amy qui termine chaque couplet par le fameux A Partridge in a Pear Tree, plus ou moins au yaourt, mais qu'importe, chanté par une petite fille de 5 ans, c'est Choupi Mimi. Est-ce que j'utilise cet innocent enfant pour nous attirer la sympathie des juges? Absolument. Est-ce que je l'admettrais? Jamais. Le récital touche quasiment à sa fin, les applaudissements entre les chansons étaient nourris, arrive le moment du grand final. S'il était important de produire un spectacle de qualité, il me paraissait essentiel de finir en apothéose, histoire de marquer durablement l'esprit des juges. Et pour ça, j'en étais certaine en préparant le show, il nous fallait une chanson plus punchy. J'attends que les derniers applaudissements cessent, que le silence règne de nouveau, puis je lève les bras en l'air et donne ainsi le signal à Judith, celle qui avait choisi une chanson d'Aya Manque Plus Que Ça lors des auditions, qui libère de sous sa cape la guitare électrique qu'elle gardait cachée jusqu'à présent. Ta-ra-ta-tan-ta-ta-ta-ra-ta-tan-tan-tan, joue-t-elle. Je l'ai trouvée au petit matin, toute nue dans mes grands souliers, placée devant la cheminée. Pas besoin de vous faire un dessin, de battre mon cœur s'est arrêté. Sur le lit, j'ai jeté mon fouet. Tout contre elle, je me suis penchée, et sa beauté m'a rendu muet. Judith est déchaînée à la guitare. Le reste de la Santa Chlorale donne tout ce qu'il a au chant. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Ouh yeah! C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Petit solo de guitare, puis tout le monde se place de dos et remonte la capuche de sa cape sur la tête. J'ai eu cette idée de dernière minute après que Maddy nous a déposé les costumes tout à l'heure. Je ne suis pas peu fière, ça en jette un max. Lorsque nous nous retournons de nouveau pour être cette fois face au public, je suis prête à accueillir les ovations. Je suis excitée comme chaque chanteur de l'Eurovision au moment de la distribution des points.
And finally, our 12 points goes to Santa les deux sapins.
Au lieu de cela, le public a quelque peu sonné, on va dire ça comme ça. Maddy a la bouche grande ouverte, Yevgeny a la tempe droite qui tressaute, David semble se retenir d'éclater de rire. Valérie est la première à applaudir, suivie, même semble-t-il, un peu mollement, par Hélène, puis par le reste du village. Aurais-je fait une erreur sur le choix du final? C'est une chanson de Noël qui en jette, non? C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, la 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 la. C'est quand même nettement mieux que les niaiseries habituelles du Père Noël qui descend par la cheminée, petit garçon, il a l'air d'aller se coucher, non?
Molto interessante,
dit Frida alors que nous descendons de l'estrade pour rejoindre la foule en pas d'élire.
Congratulations,
nous félicite Warren.
Just one question. Qui est Père Fouettard?
Demande-t-il.
Cette chanson était pour le moins originale, intervient Hélène. Assez éloignée des standards habituels, il est vrai. Et la petite Amy était tellement chou dans sa cape. Venez, je vais vous la présenter,
propose-t-elle avant d'entraîner les juges dans la direction de Benjamin et Christelle qui ont rejoint leur petite fille pour la féliciter. Je les regarde s'éloigner avant de sentir les bras de David s'enrouler autour de moi.
« Je crois que ta mère me déteste, » murmurai-je. « Désolée. »«
Mais non, pourquoi est-ce que tu dis ça ?»
Elle n'avait pas l'air très enthousiaste par rapport à la fille du Père Noël.
« Moi, j'ai adoré, si cela peut te consoler. C'était rock et moins gnangnan que le reste. »«
Ça déchirait, cette dernière chanson !»
s'enthousiasme Maddy à son tour après nous avoir rejoints.
J'ai adoré. Et le coup des capuches, là, génial.
Elle tient dans ses bras la Grinchette qui s'évertue à essayer de lui arracher ses boucles d'oreilles.
Pauline pense que maman la déteste à présent.
Ah bon, pourquoi?
Elle a dit qu'elle trouvait la chanson pour le moins originale, avant de détourner l'attention des juges, expliquai-je dépité.
Tu connais ma mère, elle est plutôt traditionnaliste en ce qui concerne Noël, mais je suis certaine qu'elle ne te déteste pas. Elle est incapable de détester qui que ce soit. Même Mireille, qui jusqu'à l'année dernière a gagné chaque précédente édition du concours de cookies, trouve grâce à ses yeux. C'est dire.
Je ne veux surtout pas la décevoir. Je pensais qu'il fallait une chanson finale qui marque les esprits des juges pour qu'ils s'en souviennent.
De ce côté-là, c'est réussi, dit David. Je les ai vus prendre des tas de notes sur leur calepin.
Ne t'inquiète pas, ma chérie, je suis certain que ma mère est très contente. Sans toi, il n'y aurait peut-être même pas eu de chorale.
J'espère que tu as raison.
Après la première de la Santa Chlorale, vient l'heure de l'inauguration du clou de la décoration du village. Les maisonnettes fabriquées avec des matières comestibles. Pain d'épices, carrés de chocolat, meringue, sucre d'orge. David et Donovan y ont passé quasi tout leur temps depuis que nous sommes arrivés. Et pour ce que j'ai pu en apercevoir, le résultat risque d'être assez exceptionnel. « Avant de vous dévoiler nos maisons en sucré, » dit Hélène, « je voudrais avant tout remercier tous ceux qui ont participé à leur construction, tant les pâtissiers, boulangers, chocolatiers qui ont fourni la matière première que les menuisiers qui ont fabriqué les structures. » Et je n'oublie pas, bien sûr, tous les bénévoles qui ont accepté, sans compter leurs heures, d'assembler les différents éléments pour aboutir au résultat que nous allons maintenant vous dévoiler. Hélène quitte son micro pour rejoindre l'une des maisons dissimulée derrière un drap de satin rouge. Comme elle, d'autres personnes se positionnent à côté des autres édifices. D'un signe de tête, elle donne le signal et tous tirent sur leurs draps en même temps, dévoilant l'ensemble des maisons en sucré. Les cris et exclamations fusent. Le résultat est magique, coloré et très appétissant. La foule se met alors à applaudir, pleine d'enthousiasme. Frida, Yevgeny et Warren sont impressionnés. Je le devine à leur tête. Il faut dire qu'il y a réellement de quoi. Je m'approche des constructions pour les admirer plus en détail. Murs en pain d'épices, volets et portes en nougatine, tuiles en meringue, parterre de fleurs en pâte à sucre, un déferlement de glucides sous nos yeux gourmands.
« Alors, qu'en penses-tu ? » demande Donovan. « Ça en jette, hein ?»«
J'avoue, vous avez bien bossé. Enfin,
presque bien, complétais-je en m'approchant d'un peu plus près de la maison face à moi. Il manque quelques meringues sur le toit de celle-ci tout de même.
Comment ça ? S'exclame mon beau-frère. C'est moi qui ai placé chacune de ces foutues meringues sur chacun de ces foutus toits. Je peux te dire qu'il n'en manquait pas une seule.
Eh bien, regarde toi-même, dis-je en m'éloignant quelque peu.
Ah, mais oui, tu as raison, il en manque. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Allez, avoue que tu en as boulotté autant que tu en as posé, le taquinai-je. J'ai cru comprendre hier soir au dîner que tu n'en étais pas à ton premier forfait de chapardage de sucreries en tout genre.
J'avais 8 ans. Est-ce qu'on va éternellement me resservir cette histoire ?
Hélas, je crains que oui, rigolais-je. Et crois-moi, j'en fais aussi les frais. Personne ne semble vouloir oublier cette stupide et insignifiante histoire de caméra de vidéosurveillance.
Alors, mon frère, on a englouti quelques meringues pendant que maman avait le dos tourné ?
Se moque à son tour, m'a dit.
J'ai même vu un volet à moitié grignoté sur l'une des maisons du fond. C'est moche, ça, Donovan. Très moche. Je pensais pourtant que tu avais retenu la leçon depuis tout ce temps.
Puisque je vous dis que ce n'est pas moi. Depuis mes aventures, j'évite au maximum les sucreries.
C'est sûrement ce juge américain-là. Tu as vu hier comment il s'est jeté sur les cookies au gymnase. Je le crois tout à fait capable d'avoir fait une discrète visite sur le chantier cette nuit afin de procéder à une petite dégustation des édifices.
Nos regards convergent vers les juges qui sont entourés d'Hélène et de Valérie. Warren semble en effet attiré par les maisons comme un sushi par la sauce soja. Nous le voyons même chipper une tulipe en pâte à sucre pour l'enfourner dans sa bouche en toute discrétion.
Tueur de fleurs. Qu'est-ce que je vous disais ? C'est Warren qui a fait le coup, j'en suis sûre.
Sachant l'énorme panier de douceurs qu'Hélène a fait déposer dans la chambre d'hôtel de chacun des juges, je suis quelque peu sceptique.
Maddie, ce ne serait pas Sam là-bas ?
Questionnai-je soudain en désignant du doigt une petite fille assise par terre en train de fourrer dans sa bouche les graviers en chocolat de l'allée d'une maison en sucré. Tel oncle, telle nièce. La nuit tombe vite dans les villages de montagne, si bien qu'une heure à peine après l'inauguration, le centre-ville est déjà quasi désert. Liz et moi sommes au chaud dans la boutique de Maddy pour un premier essayage des robes de demoiselle d'honneur.
Mais comment as-tu fait pour qu'on puisse déjà les essayer ?
J'y ai travaillé toute la nuit. De toute façon, je n'avais rien de plus intéressant à faire. Ludo s'endort à peine, la tête posée sur l'oreiller en ce moment, alors il n'est pas vraiment disponible pour une partie de jambes en l'air en bonne et due forme. À bien y réfléchir, même pour une simple partie de jambes allongées.
Tu pouvais dormir aussi, suggère Liz, nullement gênée par les allusions sexuelles de Maddy.
À condition que Sam ne se réveille pas plusieurs fois dans la nuit.
Et puis dormir, c'est pour les faibles. Je dormirai quand ma mère aura épousé son Étienne et que tout se sera bien passé.
Ensuite, je raccroche pour toujours ma casquette de wedding planeuse. Heureusement que je ne me suis pas emballée et que je n'ai pas déposé mon nom de domaine comme je l'avais un temps envisagé.
Grâce à Maddy, ils se sont dit oui.
Ça en jetait, non ?
La réalité serait plutôt un « grâce à Maddy, ils se diront peut-être oui si elle retrouve les coordonnées du traiteur sur les post-it de son bureau », plaisantais-je. Mais niveau nom de domaine, ça fait un peu long.
Ça, c'est petit. Tu as de la chance d'être ma belle-sœur préférée. En parlant de belle-sœur, demandai-je soudain, Anastasie n'est pas là ? Tu n'as pas eu le temps de terminer sa robe ?
C'est la première que j'ai faite, tu penses. Moins de tissu à utiliser, moins de couture à faire, moins de temps à passer. Je l'ai cherchée, mais je ne l'ai pas trouvée.
Bizarre, il me semble pourtant l'avoir aperçue lors de l'inauguration, dis-je.
En même temps, comme elle n'est pas là, cela nous laisse le champ libre pour évoquer le couple Liz Donovan, s'exclame Maddy avec enthousiasme.
Hé ! S'offusque l'intéressé. Il n'y a pas de couple Liz Donovan, en tout cas plus depuis longtemps.
Mais avoue que tu en pinces encore pour lui,
persiste Maddy sans se démonter alors qu'elle sort nos deux robes de demoiselle d'honneur, jusque-là protégées par des housses. Le résultat est bien plus joli que ce que je craignais. On est bien sûr de la robe Maria Carré, mais avec une longueur plus compatible avec la moralité de Santal et de Sapin.
« Je ne vois pas ce qui te fait dire ça », répond Liz, tout en enfilant sa robe parfaitement coupée, soulignant la rondeur de ses hanches et sa taille marquée.
« Qu'est-ce qui me fait dire ça? Hier soir, lors du dîner, tu le bouffais littéralement des yeux. N'est-ce pas, Pauline?
Absolument, approuvai-je.
Mais pas du tout. Je le regardais juste comme un vieil ami que je n'ai pas vu depuis longtemps.
Un vieil ami avec qui tu crèves d'envie de coucher plutôt.
Ah, tu vois, tu rougis. Bingo!
Le visage de Lise se confond en effet avec la couleur pourtant prononcée de la robe, ce qui, égoïstement, me rassure par rapport à David.
Si je puis me permettre, il me semble que Donovan n'est pas non plus indifférent à ta présence, indiquai-je.
Ah oui? Tu crois? Demande Lise, qui se trahit aussitôt par l'espoir qu'elle met dans son intonation.
Ce matin, je l'ai observé à la fin de la course de luge. Quand vous vous êtes relevé, il t'a prise dans ses bras et je suis quasi certaine qu'il a respiré le parfum de tes cheveux. Et à mon avis, quand on fait ça, c'est qu'on en pince un peu pour l'autre.
Fichtre! S'écrie Maddy. Ludo ne respire jamais le parfum de mes cheveux.
Bon, il faut dire qu'un jour sur deux, il sent à moitié le vomi de Samantha.
Je ne peux m'empêcher d'éclater de rire avant d'enfiler à mon tour la robe confectionnée pour moi par ma belle-sœur. Comme pour Lise, elle me met parfaitement en valeur. Maddy est vraiment douée dans son domaine.
Lise, qui visiblement était perdue dans ses pensées, sans doute pas très loin d'un certain Donovan, reprend hésitante.
« Il est avec Anastasie aujourd'hui et elle est...
beaucoup trop mince.
Absolument pas marrante, »
propose Maddy.
« Je sais tout, au trivial poursuite, mangeuse de laitue, sauce à part. »
Ne puis-je m'empêcher d'ajouter ce qui fait rire Lise pour une raison qui m'échappe totalement.
« Elle est amoureuse de lui, » s'entête-t-elle. « Ça a l'air d'être du sérieux entre eux. » « Je connais bien mon frère. Je suis certaine qu'il ne ressent pas grand-chose pour Anastasie. »
« Vous êtes sortis longtemps ensemble au lycée ?» demandai-je à Lise.
« Je ne me souviens plus vraiment. Peut-être 17 semaines. »
« Pour quelqu'un qui ne se souvient plus, c'est drôlement précis, » rétorque aussitôt Maddy.
« C'est vrai, j'en pinçais vraiment pour Donovan. Quand il m'a demandé de sortir avec lui, cela faisait des années que j'en rêvais en secret. »«
Oui, comme David avec toi, » ajoute Maddy du tac au tac. « Je manque m'étouffer avec ma salive. »
« Maddy !»«
Comment ça ?»«
Non, rien. »«
Mais si, tu as dit comme David avec moi. » Est-ce que ça veut dire que David avait des sentiments amoureux pour moi?
Surtout, ne lui dis pas que c'est moi qui te l'ai raconté. Promets-le. Avant de répondre quoi que ce soit, Lise se tourne vers moi. Elle semble gênée.
Pauline, je... T'inquiète. J'ai mis en œuvre une stratégie basée sur la dépendance sexuelle pour que l'esprit de David demeure éloigné de toi.
Maddy pouf.
Je suis désolée. Vraiment, je ne savais pas...
Je te promets qu'il n'y a pas de souci.
Oui, David en pinçait pour toi, il me l'a lui-même confirmé. Mais c'est du passé. Rien qui ne nous empêche d'être amis. Enfin, je l'espère.
Lise me répond par un grand sourire.
Mais alors, quand je suis sortie avec Donovan... David t'aimait en secret. Donovan le savait, lui, et il en a profité pour le faire enrager en sortant avec toi.
Termine Maddy... sans même se rendre compte des ravages à venir d'une telle affirmation. Enfin, juste pendant quelques secondes.
Ah merde, je n'aurais pas dû te dire ça non plus.
Voilà.
Attends, tu veux dire que pour Donovan, il n'y a jamais rien eu? Que lui et moi, en réalité, ça n'était rien d'autre qu'une histoire de rivalité entre frères?
Lise, qui se défendait tout à l'heure d'éprouver des sentiments pour Donovan, est à présent au bord des larmes.
Curieux, non?
Donovan était un petit con à l'époque, Lise, tente de la consoler Maddy. Il se foutait des sentiments des gens. C'était toi, mais ça aurait tout à fait pu en être une autre.
Bien, Maddy, en voilà une phrase qui va la réconforter, c'est sûr.
Quand je pense que je l'aimais comme une dingue et que lui...
dit Lise après quelques instants de silence.
Bref, on s'en fiche après tout. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. D'ici quelques jours, je serai dans l'avion de retour vers l'Australie et Donovan redeviendra ce qu'il était jusqu'à hier. Un lointain souvenir pas très agréable.
Cette robe est magnifique, Maddy. Tu es vraiment très douée. J'ai hâte de voir le sourire de ta mère lorsqu'elle nous découvrira.
Je ne sais pas qui Lise cherche à convaincre, mais elle y met de la conviction, c'est certain. Si jamais Donovan caresse au fond de lui l'espoir de la reconquérir, il va falloir qu'il y mette du sien.
et pas qu'un peu. Il est un peu moins de 20h lorsque Maddy et moi rejoignons le reste de la famille au chalet. Lise a décliné l'invitation à dîner, préférant passer du temps avec sa famille. C'est-à-dire, loin de Donovan, tout le monde l'aura compris. Maddy a pris soin d'emporter avec elle la robe de demoiselle d'honneur d'Anastasie, qui tient dans une housse ridiculement petite, il faut le dire, afin qu'elle puisse l'essayer. L'ambiance est détendue. Hélène, comme à son habitude, est au fourneau. Je ne sais pas ce qu'elle cuisine, mais cela sent divinement bon. Étienne lui tient compagnie. Tous les deux discutent à bâton rompu. Il est question, me semble-t-il, du concours et des compliments qui ont été faits par les juges concernant la décoration du village. Quand elle nous aperçoit, Hélène nous adresse un grand sourire, que j'interprète aussitôt comme un « Pauline, je ne vous en veux plus du tout, pour la fille du Père Noël, c'était un excellent choix de chanson, totalement réaliste. » Donovan et David, que je n'avais jamais vu faire quelque chose à deux, sont en pleine partie d'échecs, ce qui, en fait, se résume à une intense réflexion de part et d'autre, tant aucun ne veut risquer de perdre et de se faire charrier par son adversaire. Seuls deux pions ont été bougés, des échecs immobiles, en somme. Ludo court après la grinchette, qui, elle-même, court après Pilou. Anastasie est au fond de la salle à manger, visiblement en train de faire une séance de yoga. Elle est en juste au corps sur un tapis de gym, en équilibré sur une jambe fléchie, l'autre enroulée autour, les bras emberlificotés devant elle. Enfin, ça c'est avant qu'elle soit bousculée par Pilou, qu'elle tombe à plat ventre sur son tapis et que la grinchette grimpe sur elle en criant « Udada !» « Le dîner est presque prêt !» indique Hélène en rejoignant ses deux fils dans le salon. « Anastasie, je vous ai préparé un bouillon comme vous le souhaitiez, en prenant bien soin de n'utiliser ni sel, ni beurre, ni huile, ni quelconque autre matière grasse. » Bref, de l'eau chaude avec des légumes ayant trempé dedans. Miam, qui en veut? Merci, Madame Garlandby, dit Anastasie à plat ventre sur son tapis, essayant d'extirper ses longs cheveux sans en perdre une poignée au passage, des mains de la grinchette qui s'en sert comme de reine pour faire accélérer sa monture. Elle est tant bien que mal aidée par Ludo qui demande en vain à sa fille de lâcher les cheveux de la gentille dame qui n'est pas un cheval. Pilou, vexé qu'on lui ait préféré un autre destrier, s'en est allé bouder dans son panier. David est toujours intensément concentré sur l'échiquier. Pourtant, aucune autre pièce n'a encore été déplacée depuis que nous sommes arrivés, Maddy et moi. « Je réfléchis au meilleur coup à jouer », m'explique-t-il comme s'il avait deviné que je l'observais dans son dos. « Je crois qu'à ce stade, tu peux sans risque déplacer, disons, un pion », proposais-je en réprimant un début de fou rire. C'est comme ça que l'on perd une partie, figure-toi. On bouge un pion, mais si on le fait sans réfléchir à la riposte de l'autre et à ce qu'on pourra faire ensuite, eh bien c'est le début de la fin. Oui, eh bien là, on n'est pas près de l'avoir, cette fin de partie, si tu veux mon avis. Laisse faire les experts, réplique Donovan sans quitter l'échiquier des yeux. Si ça se trouve, aucun des deux ne sait jouer aux échecs et c'est pour cela que ça n'avance pas. Les connaissant, aucun des deux n'aurait été prêt à admettre qu'il ne savait pas jouer si l'autre lui avait proposé de faire une partie juste pour le provoquer. « Valérie ne se joint pas à nous ?» demandai-je à Hélène. Hélène et elle ne sont qu'amies, mais j'ai compris dès ma première venue à Santal et de Sapin que Valérie faisait partie de la famille. « Non, ce soir elle emmène nos juges déguster une fondue savoyarde dans le meilleur restaurant des environs. D'ailleurs, je voulais vous dire, Pauline, pour tout à l'heure, elle est interrompue par trois coups frappés sur la porte d'entrée. À la surprise qu'exprime son visage, on devine qu'elle n'attend personne. Personne qui, derrière la porte, elle, n'attend pas que quelqu'un prenne la peine de lui ouvrir et entre. Bonsoir tout le monde! J'ignore complètement de qui il s'agit, mais à la tête que font David, Donovan, Maddy, Hélène et même Étienne, je devine que, si surprise il y a, elle n'est pas bonne.